J'appréciais de retrouver le prêtre de la santé pour notre troisième rendez-vous. Il était au courant de ma situation singulière, puisqu'il me confia avoir prié pour moi dans l'espérance de l'audience de lundi matin. Exceptionnellement ce dimanche, il n'avait pas célébré la messe à la santé. Il était donc venu exprès pour me visiter. Je lui en étais très reconnaissant. Nous ne parlâmes pas de mon affaire. Je n'y tenais pas. Et il ne me posa aucune question. Je n'aurais eu d'ailleurs aucune réponse à formuler. Il mit le sujet de notre échange sur le mystère du mal. Il faut bien reconnaître que le lieu était adapté pour cela. Il s'agissait en outre d'un thème inépuisable. Comme chaque fois avec mon interlocuteur, la conversation était apaisée, bienveillante et profonde. J'étais frappé par le fait qu'il ne voulait jamais imposer son point de vue. Il s'excusait presque de professer des convictions. Nous communiâmes ensuite et nous nous séparâmes en nous promettant de nous revoir, en dehors de la santé. Je regrettais déjà presque mes conversations avec ce prêtre. Je parlais plusieurs fois dans la journée à Carla par téléphone. Elle était paralysée par l'angoisse du lendemain. C'était attendu et compréhensible. Je faisais de mon mieux pour lui donner de la confiance. La situation était plus dure pour elle que pour moi. J'étais dans l'œil du cyclone. Je devais tenir et agir. Elle ressentait un profond sentiment d'impuissance. Je lui conseillais de se concentrer sur ma sortie de lundi après-midi. Il faut croire que je n'arrivais pas à être particulièrement convaincant. Cependant, cela redoublait mes forces pour préparer ce rendez-vous avec mes nouveaux juges. Je travaillais d'arrache-pied tout l'après-midi. J'étais prêt. J'avais hâte que cette nuit qui s'annonçait interminable soit passée. Malgré tout, j'avais l'espoir de retrouver le jour et la lumière dès le lendemain. La presse était mobilisée et particulièrement impatiente. Les pronostics étaient pour la plupart favorables. Les demandes d'interview en vue de ma sortie, si elle avait bien lieu, étaient innombrables. Je n'avais que l'embarras du choix. Chacun voulait être le premier à recueillir mon témoignage. Ma résolution était prise. Je ne voulais pas prendre la parole. En tout cas pas à chaud. Tout juste, j'envisageais de publier un message pour remercier tous ceux qui m'avaient écrit, témoigner leur soutien ou pris position en ma faveur. C'était largement suffisant. La nuit passa vite. J'étais debout dès 6h30 ce lundi matin. Fallait encore attendre 3 heures pour l'audience. Ce temps avant le débat m'a toujours pesé, et ce, quelle que soit la nature de l'enjeu, judiciaire ou autre. J'aime l'action, moins sa préparation et ses conséquences. Je me sens comme un bâtisseur. Une fois le projet réalisé, je passe à un autre, sans trop regarder en arrière. J'appelais Carla alors qu'elle se rendait à la cour d'appel en compagnie de Pierre et de Jean. C'était une nouvelle épreuve pour elle, avec l'angoisse qui allait de pair. L'audience avait lieu en visioconférence. Pour moi, dans une salle du parloir de la santé. Les magistrats étaient au palais de justice. Deux de mes avocats se tiendraient à mes côtés, tandis que Christophe Ingrin serait devant la cour pour plaider. L'heure arriva enfin. Je n'étais pas trop stressé, malgré l'enjeu qui était ma liberté. Le président commença par un geste de délicatesse, en proposant que les membres de ma famille s'installent au premier rang pour que je puisse les voir à l'écran. Carla et mes deux fils apparurent. C'était émouvant. L'audience fut courte, moins d'une heure. Je dus répondre à 2 questions portant sur ma capacité ou ma volonté d'influer sur des acteurs ou des témoins de l'affaire, ce que je contestais vigoureusement. La salle était bondée de journalistes, au milieu desquels trônait en majesté le représentant de Mediapart. Loin d'être honteux d'avoir publié un document désormais considéré comme probablement faux, eh bien il continue à parader. L'influence qu'il exerce sur une grande partie de ses confrères est tout aussi fascinante à observer que désolante à constater. Je fus soulagé d'entendre le représentant du ministère public, demander qu'il soit fait droit à ma demande de mise en liberté. Il est rare de voir un prévenu devant cette cour présenter autant de garanties de représentation. Je n'aurais pu mieux dire. Mais pourquoi me mettre en prison 3 semaines auparavant alors que je présentais les mêmes garanties ? Cette question de bon sens restera vraisemblablement sans réponse. Christophe Ingrin plaida avec émotion. Il fit du droit, ce qui faisait plaisir à entendre. Après la violence des débats de première instance, j'avais l'impression d'être revenu dans une atmosphère, certes pas amicale, mais au moins normale et sereine. La cour annonça qu'elle rendrait sa décision au début d'après-midi. Je remontais dans ma cellule. J'avais encore 3 heures à attendre. Au fond, le processus judiciaire est fait, consciemment ou non, pour user, pour affaiblir, et pour qu'au bout de cette course d'obstacles, le prévenu se sente coupable. De quoi ? Cela n'a guère d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il sente le rouleau compresseur de l'institution sur ses épaules. Faire profil bas est la stratégie, non pas que l'on vous conseille, mais que l'on vous impose, et que vous finissez même par vous imposer à vous-même. Dois-je préciser que ce sentiment était profondément douloureux à supporter, alors que j'étais innocent de ce que l'on était en train de m'accuser. Je fis malgré tout une brève déclaration dans laquelle je rappelais ma volonté de prouver cela. J'expliquais combien l'enfermement avait été dur à supporter, sans donner le moindre détail, par pudeur. Et je remerciais le personnel pénitentiaire pour son humanité. J'essayais de tuer le temps qui me restait. N'étant pas trop superstitieux, je commençais à ranger mes affaires en vue du départ. J'étais impatient de quitter ma cellule. Puis je redescendis au parloir pour attendre la décision. J'étais assez confiant, d'autant que mes avocats m'informèrent que le périmètre de la santé avait été intégralement bouclé en fin de matinée, et que des motards de la police nationale stationnaient dans la perspective de me ramener à mon domicile en cas de libération. Le président annonça d'abord ses décisions dans 2 ou 3 affaires qui n'avaient rien à voir avec la mienne. Puis vint l'annonce me concernant. Comme attendu, ou au moins espéré, je pouvais quitter la prison dès cet après-midi. Quel soulagement ! C'était une chose de l'espérer. C'en était une autre de l'entendre. Après ces 3 interminables semaines, je respirais vraiment, je n'avais qu'une idée en tête, m'en aller le plus rapidement possible. Mais il fallut encore attendre environ 2 heures pour que l'arrêt de la cour arrive à la prison et que l'administration puisse procéder à la levée d'écrou selon la formule consacrée. Tous les surveillants vinrent me saluer et me firent part de leur joie. L'un d'entre eux me confia avec émotion au moment où je quittais ma cellule « Mais vous avez eu une grande influence sur nous. C'était important de pouvoir parler avec vous et vous voir vivre au quotidien. Votre discipline pour le travail et le sport nous a impressionnés. » J'avais le sentiment de me séparer de proches, tant ils avaient tous été attentifs et respectueux. Le directeur me ramena jusqu'à la cour. Jusqu'au bout, il fit son métier avec professionnalisme et tact. Je lui recommandais une nouvelle fois d'emmener sa femme visiter l'exposition « Georges de la Tour » au musée Jacquemart-André. « Mais je vous ai écouté. J'ai trouvé des billets pour le 30 novembre. » J'en fus touché. Je refaisais l'exact chemin inverse que lors de mon entrée, 3 semaines auparavant. Pourtant, je ne reconnaissais pas les lieux. Je devais avoir été plus ému ou impressionné que je ne l'avais imaginé. Carla m'attendait dans la voiture. Elle ne sortit pas afin d'éviter les photos sauvages. Nous étions tellement heureux de nous retrouver. Je voyais le ciel pour la première fois depuis 3 semaines. Nous traversâmes la cour d'honneur, dont la pente était inclinée à dessein. Autrefois, la guillotine y était installée, et le dénivelé permettait au sang de s'écouler. La barbarie ne néglige aucun détail. Cela ne me rendait pas ce lieu très sympathique. Au sortir de la prison, le spectacle fut aussi dantesque qu'à l'arrivée. Des dizaines de caméras, de photographes, de journalistes nous attendaient. Les motards de la police nationale nous ouvrirent le passage. J'étais entré comme un chef d'État, je partais avec le même statut. Nous traversâmes Paris au rythme de ce cortège officiel. C'était absolument irréel. Je venais de quitter la prison de la Santé comme un délinquant. J'étais en train de traverser Paris à vive allure, au sein d'un cortège immense. Les gens m'adressaient des signes amicaux depuis les trottoirs. En arrivant dans mon quartier, le nombre de policiers avait encore augmenté. Les rues étaient barrées, les journalistes étaient omniprésents, des passants étaient agglutinés derrière les barrières métalliques. J'étais heureux et dans le même temps, je commençais à ressentir une grande fatigue. Les enfants étaient à la maison, nous dînâmes tous ensemble, mon premier véritable repas depuis 3 semaines. Cela faisait tellement de bien de retrouver la vie et les miens. Je parlais assez peu, j'étais comme étourdi par l'air extérieur après ces semaines d'enfermement et d'isolement. Carla me donna le téléphone portable que j'avais laissé en entrant à la Santé. À la minute où il fut en activité, il ne cessa de vibrer. Je comptais des centaines de messages en attente. Je n'eus le courage de répondre à personne. Je me couchais tôt. J'étais encore plus fatigué qu'en prison. La nuit fut paisible. Pas de bruit, pas de cris, pas de menaces. Quel changement appréciable. En retrouvant Carla, je pouvais de nouveau respirer normalement. Je n'avais plus besoin d'être aux aguets et sur mes gardes. Je pouvais relâcher ma vigilance. Au réveil, je me sentis faible et prêt à renoncer à mon premier jogging en plein air. J'étais d'autant plus enclin à cela qu'il y avait encore une bonne vingtaine de journalistes en bas de notre impasse. Je n'avais nulle envie de les affronter. Finalement, la bonne ou la mauvaise conscience me poussa à ne pas m'écouter. Je m'échappais donc de la maison par l'arrière de l'immeuble pour éviter les photographes. Je partis en direction du bois de Boulogne. Au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, je me sentais de mieux en mieux. Après ces séances de sport enfermées, je n'en revenais pas du bonheur d'être en forêt, en plein air. Sentir le vent sur ma peau, mais c'est la liberté qui revenait. Les passants me saluaient, m'encourageaient et me disaient leur bonheur de me voir libre. Cela faisait longtemps que je n'avais pas couru le cœur si léger. Avec Carla, nous partîmes ensuite déjeuner. L'entrée du restaurant était cernée par les caméras et les photographes qui nous avaient suivis. Je ne répondis à aucune de leurs questions. J'étais cependant heureux de pouvoir montrer, grâce à leur présence, que la prison ne m'avait pas brisé, ni physiquement, ni moralement. Les clients nous applaudirent, nous entourèrent de leur soutien avec une force et une ferveur bouleversantes. La page de la prison était désormais tournée. Je voulais revenir au bureau dès le lendemain. Ma vie reprenait un cours normal. J'étais décidé à ne pas faire à mes ennemis le cadeau d'une seule minute de mon existence. Haïssez-moi, je vis. Enfermez-moi, je vis. Vous ne pourrez jamais rien contre cela. Tel était le message subliminal que je voulais adresser à mes contempteurs. Au final, cette épreuve judiciaire si pénible m'aura ouvert les portes de cet amour dont j'ai été le réceptacle en dépit et grâce aux barreaux de cette prison. Je n'ai ressenti aucune humiliation. J'ai puisé au fond de moi une force que j'ignorais. Avec la gravité qu'imposait la situation, j'ai compris la chance de pouvoir compter sur Carla comme sur toute ma famille. Avec tous ces témoignages de Français, j'ai senti combien la France est profondément ancrée en moi et combien je lui suis attaché. Avec l'épreuve, j'ai dû réfléchir au bonheur, à sa fugacité et au prix qu'il fallait payer en retour. Les hauts et les bas, si intimement liés. Rien n'est gratuit dans la vie. Tout produit son lot de conséquences. Avec ce livre, j'ai dit la vérité de mes sentiments sans les travestir. Je n'ai de compte à régler avec personne, si ce n'est avec le mensonge. Celui-ci, je le pourfendrai, sans pitié, et avec lui ses auteurs. Il me reste une promesse à tenir. Elle pourra paraître étrange, puérile, impudique, mais je me la suis faite au cœur de la nuit de la santé. Je dois la tenir. Si je sortais de cet enfer, j'irais à Lourdes, voir les malades et les désespérés. Je passerai la journée avec eux et m'immergerai en leur compagnie dans les piscines du sanctuaire. Quelques mois auparavant, la lecture de Zola m'avait fait découvrir Lourdes, à laquelle il a consacré un livre magnifique. Cela m'a tellement aidé de penser à ceux qui souffraient bien davantage que moi. Je leur dois, à eux aussi, d'avoir pu tenir. Cette promesse sera donc honorée, comme toutes les autres. La vie qui passe et qui propose tant d'épreuves permet de renaître plus fort, plus mature, plus grave. À la santé, j'ai recommencé ma vie.
Vous venez d'écouter un livre audio publié par Audiolib.